Bonjour à toutes et à tous. On va continuer aujourd'hui le cours de génétique des populations et évolution. Et le deuxième cours s'intitule « La révolution paléogénomique dans l'histoire de l'homme, l'apport de l'ADN fossile ». Donc tout d'abord, on va voir les caractéristiques et comment on peut extraire l'ADN provenant des fossiles et les séquencer et les différentes étapes pour s'assurer qu'on est bien en train de séquencer l'ADN fossile et non pas de contamination. Ensuite, on va voir comment le séquençage de l'ADN fossile nous a beaucoup appris sur deux autres formes humaines, ce qu'on appelle des hommes archaïques, comme l'homme de Néandertal et l'homme de Denisova. Ensuite, on va voir comment nos interactions, c'est-à-dire les interactions des premières Homo sapiens, que ce soit en Europe, en Asie ou au Pacifique, avec d'autres formes humaines, nous ont permis à nos ancêtres de mieux s'adapter aux différents environnements qu'ils ont trouvés. Et enfin, on va aussi voir comment l'étude de l'ADN ancien peut simplement nous apprendre des choses qu'on ne savait pas sur l'histoire des populations humaines modernes. Donc, commençons par l'ADN et le séquençage de l'ADN à partir des fossiles. Principalement, on peut extraire de l'ADN moderne, de l'ADN ancien, des tissus calcifiés provenant que ce soit des os, par exemple, des dents, mais aussi des tissus momifiés, qu'on verra un exemple aujourd'hui, ou aussi des coprolites, c'est-à-dire des excréments qui ont été fossilisés. Les estimations d'aujourd'hui proposent qu'on peut arriver à extraire de l'ADN ancien des fossiles jusqu'à des fossiles qui dateraient d'il y a entre 500 000 et 1 million d'années. Mais la limite supérieure, ça serait pas plus de 1 million d'années, ce qui nous laisse évidemment supposer que les fantaisies du genre séquencer l'ADN des dinosaures seraient impossibles. On sait aujourd'hui aussi que l'ADN ancien, les caractéristiques principales de l'ADN ancien, c'est-à-dire extrait des fossiles, c'est que c'est un ADN très dégradé et qui a été déjà modifié. Quand on utilise un fossile pour extraire l'ADN, la première chose qu'on a, c'est très peu d'ADN endogène, c'est-à-dire très peu d'ADN véritablement provenant du fossile. La plupart de l'ADN, qu'on verra qu'on peut extraire, c'est soit l'ADN provenant des contaminations simplement des humains qui ont manipulé les restes fossiles, ou surtout de l'ADN microbien. On sait aussi que l'ADN fossile ou ADN ancien, il est très dégradé. On a juste des morceaux qui vont entre 30 et 80 paires de bases. Et il y a deux caractéristiques qui caractérisent d'ailleurs l'ADN ancien. Tout d'abord, on a une déamination des cytosines en uraciles. Ça veut dire qu'une fois séquencé, les uraciles sont lus comme des thymines. Donc l'ADN ancien est caractérisé par un excès de T au lieu de C, surtout dans les parties 5' des séquences. Et aussi, l'ADN ancien est caractérisé par la présence des sites abasiques, c'est-à-dire des sites où simplement la base n'existe pas. Il y a un trou dans la séquence de l'ADN. Donc, comme je vous disais aussi, l'ADN ancien est très contaminé. Et il y a trois grands types de contaminants. Les produits dans l'ADN ancien qui peuvent inhiber les expériences à faire. On a aussi des contaminations par l'ADN environnemental, des champignons, des bactéries qui sont présents autour du site qui a été fouillé ou sur l'os, par exemple, lui-même. Et surtout, ça c'est le type de contamination le plus difficile à s'en débarrasser, surtout quand on veut extraire l'ADN des humains, c'est la contamination d'ADN humain moderne qui a été contaminé simplement pendant les fouilles ou l'expérimentation. Donc, comme l'ADN ancien est très contaminé, Pour l'identifier, on a plusieurs façons d'évaluer, d'estimer le niveau de contamination exogène, d'ADN exogène, qu'on a dans un extrait d'ADN ancien. Ici, imaginons par exemple qu'on veut extraire l'ADN provenant d'un néandertalien. Donc, dans le pool d'ADN qu'on va extraire, on aura quelques séquences, c'est-à-dire quelques brins d'ADN en bleu provenant véritablement des Néandertal. On aura beaucoup d'ADN environnemental, surtout provenant des microbes. Et on peut avoir aussi de l'ADN humain, simplement parce que cet ADN a été introduit, comme je vous disais, lors des fouilles ou simplement lors des expériences en laboratoire par le humain qui a manipulé cet ADN. Donc, une façon de s'en débarrasser, c'est par exemple utiliser l'ADN mitochondrial comme marqueur du niveau de contamination humaine. Imaginons ici, on a plein de séquences, mais dans notre pool d'ADN, on voit qu'on a deux types d'ADN mitochondrial. 70% de l'ADN mitochondrial qu'on a est d'origine néandertalien, mais on a 30% de l'ADN mitochondrial qui est d'origine humain moderne. Donc là, si le pool d'ADN qu'on est en train d'extraire est, en théorie, d'origine néandertalien, on saura qu'il y a environ 30% de contamination dans ce pool d'ADN par des humains modernes. On peut aussi utiliser la présence du chromosome Y quand il s'agit des spécimens de sexe femelle. Parce que si on est en train d'extraire, comme la plupart des néandertaliens qu'on verra, qui ont été déjà séquencés sont des femmes, la présence du chromosome Y dans ces extraits d'ADN témoigne d'une contamination, parce qu'on sait que par définition, il ne doit pas y avoir le chromosome Y. Et enfin, on peut aussi utiliser les modifications connues de l'ADN ancien, les modifications post-mortem connues de l'ADN ancien, pour bien le cibler. Ces modifications communes, fréquentes, comme je vous disais, de l'ADN post-mortem, c'est l'excès de base T, surtout dans le début des séquences, la présence des sites abasiques, et aussi, étant donné que la fragmentation de l'ADN post-mortem est principalement due à la dépurination, la première base séquencée suit souvent une purine dans le génome de référence utilisée pour l'alignement. Donc, en général, il y a des grands principes de précaution que je ne vais pas vous lire en détail ici pour authentifier véritablement l'ADN ancien d'un extrait d'ADN et serait prévenir d'ailleurs la contamination par l'ADN moderne, c'est-à-dire aujourd'hui, toutes les fouilles archéologiques se font dans des conditions propres. Évidemment, il y a 30 ans ou 100 ans, ça ne se faisait pas dans des conditions propres parce que, comme vous verrez, personne s'imaginait qu'un jour on pourrait utiliser ces restes fossiles pour extraire l'ADN. Tout ce qui est la manipulation des restes fossiles en laboratoire, évidemment, se fait dans des conditions d'extrême propreté et stérilisation, utilisation des rayons UV et du Javel. Et aussi, comme je vous disais, une fois l'ADN est séquencé, on sait qu'il y a certaines caractéristiques qu'on s'attend de cet ADN véritablement ancien, comme des séquences très courtes, parce que ce sont des séquences dégradées, et toutes les modifications à niveau des bases que je viens de vous dire. Le premier voyage génétique vers le monde de la paléogénétique, à l'époque, en 1984, ça ne s'appelait pas paléogénétique, aujourd'hui cette discipline s'appelle la paléogénétique, a été le séquençage de la part d'un groupe de chercheurs américains d'une partie de l'ADN d'un zèbre qui est disparu, le zèbre quagga, que vous pouvez voir ici dans un zoo à Londres. Le dernier spécimen de quagga s'est éteint au zoo d'Amsterdam en 1883. Donc, ils ont réussi à séquencer d'un spécimen de muséum de zèbre quagga, ils ont réussi à extraire l'ADN ils ont séquencé que, à l'époque, c'était déjà un exploit, 229 paires de bases. Ils ont pu voir, en comparant cette séquence avec celle du zèbre de montagne actuel, que ces deux lignées de zèbres se seraient séparées il y a entre 3 et 4 millions d'années. Aujourd'hui, il y a deux zèbres quagga en Afrique du Sud. Évidemment, ce ne sont pas des vrais zèbres quagga. C'est un projet qui s'appelle le projet quagga en Afrique du Sud, qui, à partir de l'élevage de différents types de zèbres avec des rayures différentes, ont réussi à recréer ce que phénotypiquement, c'est-à-dire à niveau de l'apparence, ressemblerait un zèbre quagga, que vous pouvez voir ici par rapport à des zèbres classiques, même si, évidemment, cette quagga n'est pas un vrai quagga d'un point de vue génétique, parce qu'il n'y a pas eu de clonage de quagga. Voici aussi, la même année, ou une année après, en 1985, un des premiers exemples aussi de séquençage de l'ADN fossile vient d'un des pères de la paléogénétique, Svante Paabo, de l'Institut Max Planck de Leipzig, qui a réussi à séquencer un morceau d'ADN d'une momie. Alors, à l'époque, comme vous savez, la momification a commencé en Égypte, il y a environ 4000 ans, et dans cette étude-là, sur 23 momies différentes, Svante Paabo a réussi à extraire l'ADN d'une seule momie qui datait d'il y a environ 2400 ans. Cette étude, il a réussi à amplifier 500 bases, d'ailleurs, de l'ADN de cette momie, et c'était plus qu'une découverte scientifique, la preuve de principe qu'on pouvait extraire et séquencer l'ADN humain des humains ayant vécu il y a longtemps. Et dans ce cadre aussi, poser, grâce à la génétique, grâce à la paléogénétique, des questions majeures, par exemple, en égyptologie, comme l'origine des premiers Égyptiens, etc. Il avait été déjà assez visionnaire à l'époque, Svante Paabo, en 1985, parce qu'il avait déjà prédit que sa découverte, c'est-à-dire le séquençage de l'ADN ancien d'une momie, plus le travail en avant du séquençage d'un morceau d'ADN de quagga, mettait en avant la possibilité qu'avec des techniques de biologie moléculaire, dans les années qui allaient à venir, on pourrait vraiment systématiquement séquencer de l'ADN provenant des fossiles. Ce qui restait encore, en 1985, quelque chose de l'ordre de la science-fiction. Mais depuis, beaucoup de travail a été fait sur le séquençage de l'ADN ancien. Voici, par exemple, un travail de 2010 qui a séquencé pour la première fois le génome nucléaire de le mammouth laineux. Le mammouth laineux a vécu pendant le Pléistocène jusqu'à il y a que 4000 ans. On trouve des exemplaires de mammouth laineux dans des îles dans le nord de la Russie. Donc, ce qu'ils ont fait ici, c'était séquencer. Vous avez ici, par exemple, une représentation de la grotte de Roufignac, en Dordogne, d'un mammouth laineux d'il y a 13 000 ans. Donc, dans ce travail, ce qu'ils ont fait, ils ont séquencé plusieurs mammouths, dont un en particulier qui datait d'il y a 20 000 ans. Ils ont extrait l'ADN. Et ils ont observé que la plupart des fragments étaient de pas plus de 150 paires de bases, ce qui témoignait qu'il s'agissait véritablement d'un ADN ancien et dégradé. Ils ont ensuite aligné les séquences de mammouths avec des séquences actuelles d'une des espèces les plus proches du mammouth, c'est-à-dire l'éléphant, et ils ont vu que 80% des séquences obtenues dans l'extrait, le pool d'ADN ancien, correspondait effectivement au mammouth, le reste étant essentiellement des microbes. Ils ont estimé, grâce à cette étude, la taille du génome du mammouth, qui ferait environ 4000 4 milliards de bases, c'est-à-dire 1 milliard de plus que l'ADN du génome humain, c'est à 3 milliards. Et ce qu'ils ont vu, assez intéressant, que vous pouvez voir ici, c'est que les différences entre les génomes du mammouth et de l'éléphant sont très faibles, de l'ordre de 0,6%, la moitié que les différences qu'on a entre un humain et un chimpanzé, que c'est environ 1,2% de différence dans leur génome, même si le temps de séparation entre l'éléphant et le mammouth et l'homme et les chimpanzés est à peu près le même. Il y a environ 6 millions d'années. Ils ont vu aussi que les deux mammouths qu'ils ont séquencés ont commencé à diverger il y a environ 1 million d'années. Et enfin, l'étude plus généralement du génome de mammouth, en particulier du mammouth laineux, peut nous renseigner aussi sur les fonctions physiologiques adaptées à impliquées dans l'adaptation au froid. Et voici les derniers résultats de cette année, d'ailleurs, 2021, qu'ils ont poussé vraiment à la limite la capacité de séquencer l'ADN ancien. Ils ont réussi à séquencer le génome de deux mammouths qui ont plus de 1 million d'années. Jusqu'à là, quelle que soit l'espèce animale confondue, le spécimen plus vieux jamais séquencé, c'était un cheval qui avait environ 700 000 ans. C'est un travail qui a été fait par un Français, d'ailleurs, Ludovic Orlando. Et aussi quelques Néandertaliens qui dataient d'il y a 430 000 ans. Jamais rien n'avait été séquencé de plus vieux. Il y a quelques mois, ce groupe a réussi donc à séquencer un mammouth à partir d'un dent qui date d'il y a environ 600 000 ans et deux mammouths qui auraient vécu entre il y a 1 million d'années et 1,5 million d'années. Le séquençage de ces trois génomes a permis de mieux comprendre les origines et l'évolution des mammouths, comme vous pouvez voir ici. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Donc, en comparant leur génome à celui de l'éléphant d'Afrique, que vous voyez ici, et d'autres génomes de mammouths du Pléistocène supérieur plus récents, c'est-à-dire les mammouths laineux et les mammouths de colon qui habitaient en Amérique, ils ont déjà vu que les deux mammouths, deux de ces trois mammouths, ici, celui vieux d'il y a environ 1 million d'années et l'autre qui correspond à celui d'il y a environ 600 000 ans, correspondent à la branche qui aurait donné lieu au mammouth laineux qu'on trouve ici. Première observation. Mais deuxième surprise, l'autre mammouth qui date de plus d'un million d'années, ils ont trouvé qu'il appartient à une nouvelle ligne de mammouths qui aurait donné lieu éventuellement aux mammouths de colon qu'on trouve en Amérique. Ce qu'ils ont vu, que le mammouth de colombe serait le résultat d'un métissage presque à 50%, à 50-50, entre cette lignée-là qui a éventuellement donné lieu au mammouth de colombe, plus les ancêtres, les lignées-là qui éventuellement ont donné lieu au mammouth laineux, plus 12% de métissage plus récent avec les mammouths laineux d'Amérique. Et ça aurait donné lieu aux mammouths de colombe. Finalement, en étudiant différentes mutations dans le génome de ces mammouths qui ont été déjà associées à l'adaptation au froid des mammouths laineux, ils ont vu que les ancêtres des mammouths laineux, ces deux-là, portaient déjà ces mutations impliquées dans l'adaptation au froid et tout particulièrement dans des traits phénotypiques comme l'apparition de la fourrure laineuse. Mais quid de l'étude de l'ADN ancien par rapport à notre espèce ? Comme nous allons voir par la suite, l'étude de l'ADN fossile nous a permis de mieux comprendre les caractéristiques des hommes archaïques, c'est-à-dire les Néandertaliens et les Denisoviens. Ça nous a permis aussi de découvrir des nouvelles formes humaines, et on va voir ça dans le cas de Denisova, que c'est que et uniquement grâce à la génétique que cette forme humaine a été découverte. Ça nous a permis de comprendre si nos ancêtres Homo sapiens, les premiers Européens et les premiers Asiatiques, se sont métissés ou pas avec ces formes humaines dites archaïques. Et enfin, ça nous a permis de comprendre, comme je vous disais au début, différentes migrations humaines et aussi dans quelle mesure le métissage entre Homo sapiens et ces formes archaïques du genre Néandertal et Denisova a permis à Homo sapiens de mieux s'adapter à son environnement. Donc commençons par les hommes archaïques. Les hommes archaïques, les hommes dits archaïques, vivaient en Eurasie jusqu'à il y a environ 40 000 ans. Ça, c'est ce qu'on sait sur la base de la paléanthropologie et l'archéologie. On sait que l'homme aurait sorti d'Afrique il y a environ 60 000 ans, et on savait qu'au moins pendant quelques milliers d'années, Homo sapiens a cohabité avec l'homme de Néandertal dans cette région-là. Et comme on va voir par la suite, on va voir que la génétique a permis de découvrir une autre forme humaine en Asie. Le premier cas, les premiers essais de séquençage d'un homme archaïque, en l'occurrence un néandertalien, date de 1997, où le séquençage de l'ADN mitochondrial était possible à partir d'un spécimen de Néandertal retrouvé en Allemagne en 1856. L'ADN était extrait à partir d'un morceau d'humérus droit. Et à l'époque, le séquençage de l'ADN ancien était extrêmement laborieux parce que toutes les techniques de ce qu'on appelle de séquençage de nouvelle génération n'existaient pas. Donc, pour cela, il fallait extraire l'ADN, le cloner dans les plasmides, séquencer toutes les plasmides et éventuellement identifier ce plasmide qui portait éventuellement de l'ADN qui avait l'air d'être de l'ADN ancien. Donc, ce qu'ils ont vu ici, c'est que une fois séquencé, ils ont écarté toutes les séquences d'ADN qui ressemblaient à l'ADN mitochondrial humain, moderne, car les problèmes de contamination, ici, sont majeurs. Quand on extrait l'ADN d'un mammouth, c'est beaucoup plus simple de différencier l'ADN contaminant humain de l'ADN qui nous intéresse en l'occurrence, le mammouth. Tandis que là, les deux types d'ADN, c'est-à-dire l'ADN endogène d'origine néandertalienne et l'ADN contaminante, l'ADN des hommes modernes qu'on appelle, se ressemblent trop. Donc c'est là qu'il faut faire appel à des mutations diagnostiques qui distinguent s'il y en a, en l'occurrence s'il y en a, des ADN mitochondriales, en l'occurrence d'origine Homo sapiens, donc contamination, et des ADN mitochondriales d'origine néandertalien. Donc, une fois ils ont éliminé tous les ADN mitochondriales des hommes modernes, ils ont pu séquencer environ 300 nucléotides de l'ADN mitochondrial de Néandertal. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Que cet ADN mitochondrial avait environ 28 mutations qui le séparaient de la séquence d'ADN mitochondrial d'Homo sapiens. Et cela, quelle que soit la région géographique. C'est-à-dire, quand ils comparaient l'ADN mitochondrial néandertalien avec l'ADN mitochondrial d'Homo sapiens, quelle que soit l'origine géographique d'Homo sapiens, il y avait environ 28 mutations. Autrement dit, l'ADN mitochondrial néandertalien n'était pas plus proche de l'ADN mitochondrial des Eurasiens que l'étaient des Africains. Donc ici, le raisonnement était que vu que Néandertal habitait en Eurasie, s'il se métissait avec Homo sapiens d'Eurasie, son ADN devrait être plus proche des Eurasiens qu'il ne l'est des Africains. Donc, ils ont conclu qu'il n'y a pas eu de métissage entre les deux espèces. Depuis ce premier travail, il y a eu aussi beaucoup d'études basées sur des simulations, etc. Et les chercheurs s'acharnaient presque d'une façon fière d'affirmer qu'il n'y a pas eu de métissage entre l'homme moderne et l'homme de Néandertal, presque idéologique. Aujourd'hui, on est tous ravis, comme on verra par la suite, que Néandertal est très gentil et qu'il nous a donné beaucoup de choses qui nous ont permis de mieux survivre. À la suite, ils ont commencé en 2010, c'est le premier exemple du séquençage du génome de Néandertal. À l'époque, en 2010, c'était encore le génome pas à haute résolution, c'était un génome brouillon, comme ça l'était le génome humain en 2001. La version du génome humain de 2001, c'est la version brouillon, la vraie version n'est apparue qu'en 2004. De même pour l'ADN mitochondrial, ils ont réussi à séquencer 4 millions de nucléotides de 3 néandertaliens, plus de segments de 3 autres spécimens. En particulier, ils ont séquencé l'ADN provenant de 3 os qu'ils ont trouvés en Croatie. Ils l'ont comparé à des petits morceaux du génome d'autres néandertaliens dans d'autres régions de l'Eurasie. En l'occurrence, dans le pool extrait d'ADN, plus de 95% de l'ADN était d'origine microbienne dans ces cas-là. Donc vous pouvez voir que la quantité d'ADN endogène était extrêmement faible. Ensuite, en utilisant l'ADN mitochondrial comme marqueur de contamination probable, ils ont vu qu'il y avait moins de 1% de contamination, ce qui est très bien. Ce qui voulait dire que la plupart de l'ADN qui restait était probablement et véritablement d'origine néandertalien. Tout d'abord, ils ont comparé, une fois ils ont eu le génome de Néandertal, le génome néandertalien avec celui d'Homo sapiens, qu'on l'avait déjà. Ils ont trouvé qu'en moyenne, il y a 78 mutations qui seraient spécifiques de notre espèce et qui ne seraient pas présentes chez les Néandertal. Les chercheurs, à l'époque, étaient surtout intéressés à retrouver des mutations qui auraient participé à l'hominisation de notre espèce, c'est-à-dire ce qui nous séparerait de l'homme de Néandertal. Ils ont trouvé ces 78 mutations, dont la plupart sont impliquées dans des fonctions cognitives et la morphologie crânienne. On sait que c'est une des caractéristiques qui sépare, qui distingue l'homme de Néandertal de l'homo sapiens. Ensuite, ils ont comparé les génomes néandertaliens avec celui des humains modernes et ils ont pu calculer la date, utilisant l'horloge moléculaire, de divergence entre notre espèce, Homo sapiens, et l'homme de Néandertal, et ça a été daté à il y a environ 800 000 ans. C'est l'âge à partir de laquelle les deux lignées ont commencé à diverger. Et enfin, la deuxième et probablement la plus grande surprise de ce papier, et c'est là qu'on a commencé à parler de ça, c'est que quand ils ont comparé le génome de Néandertal avec plusieurs génomes humains provenant de différents endroits du monde, Afrique, Europe, Asie, ils ont observé que le génome de Néandertal ressemblait toujours plus aux Eurasiens qu'aux Asiatiques, qu'aux Africains, excusez-moi. Ce qui était la première preuve, le premier indice qu'effectivement, pendant ce temps de cohabitation en Eurasie entre ces deux formes humaines, il y a eu de métissage. Et à l'époque, a été pour la première fois estimé qu'il y a eu un flux génique de néandertaliens vers l'homme moderne entre 1,3 et 2,7%. Autrement dit, ils ont proposé qu'environ 2% du génome des Européens et des Asiatiques était d'origine néandertalienne. Depuis, il y a eu énormément de travail sur l'homme de Néandertal, et notamment, il y a eu deux séquençages à haute résolution, en 2014 et en 2007. En 2014, d'un Néandertalien qui venait de la Sibérie, d'une grotte qui s'appelle la grotte de Denisova, qu'on va voir après pourquoi elle est importante, cette grotte, et ils ont reséquencé le Néandertal de Croatie qui avait été utilisé en 2010 pour faire le premier brouillon. Donc on avait, jusqu'en 2017, deux génomes de Néandertal à haute résolution. La comparaison donc des trois Néandertaliens, parce qu'ils ont séquencé aussi, mais à basse résolution, un Néandertalien provenant de la région du Caucase, a permis de confirmer qu'environ 2% du génome des Eurasiens vient véritablement de l'homme de Néandertal, a montré aussi que le Néandertal vindija, c'est-à-dire celui de Croatie, est plus proche des segments néandertaliens que tous les humains modernes présents aujourd'hui. Et aussi, ils ont réussi, ici vous pouvez voir ça d'ailleurs, que l'homme, particulièrement ici, que si on compare les génomes des humains modernes d'aujourd'hui, ces 2% que les Eurasiens ont aujourd'hui dans notre génome ressemblent beaucoup plus aux Néandertaliens de Croatie qu'aux Néandertal de l'Altaï. Et comme vous pouvez voir ici, en séquençant à haute résolution le Néandertal de Croatie, ils ont réussi à augmenter d'environ 20% de plus la quantité de segments séquencés du génome de Néandertal. Enfin, l'année dernière, en 2020, il y a eu le dernier séquençage de Néandertal à haute résolution. C'est le troisième qui a été séquencé et il aurait vécu il y a 80 000 ans dans la grotte de Chagriskaya, que se situe en gros à 100 km seulement de la grotte de Denisova, où le fameux Néandertal d'Altaï a été séquencé. Et qu'est-ce qu'ils ont vu avec cette étude? Tout d'abord, ils ont vu que ce nouveau Néandertalien, ici, il est plus proche génétiquement au Néandertalien de l'ouest de l'Eurasie qu'il ne l'est au Néandertal retrouvé dans la grotte de l'Altaï, et pourtant, ils sont juste à 100 km l'un de l'autre. Aussi, en regardant le niveau de diversité maintenant de tous les Néandertals qu'on a, à partir de la diversité de leur génome, en génétique de population, on peut traduire cette diversité en ce que je vous expliquais vendredi dernier, c'est la taille efficace de la population. Autrement dit, le nombre d'individus qui ont contribué véritablement leur patrimoine génétique aux générations suivantes. Donc ce qu'ils ont vu, que vous pouvez voir résumé ici, c'est que les populations de Néandertal qui vivaient en Sibérie, qu'ils soient le Néandertal de la grotte de Denisova, Altaï, ou le Néandertal de la grotte de Chagriskaya, avaient des tailles de population beaucoup plus petites, beaucoup plus réduites, que les Néandertals qui appartiennent à la population représentée aujourd'hui par le génome de Néandertal vindija de Croatie. Enfin, en utilisant les trois séquences de Néandertal à haute résolution, ils ont regardé, dans ces cas-là, quelles sont les mutations, pas que seraient spécifiques de la lignée Homo sapiens, mais les mutations que seraient spécifiques de la lignée néandertalienne, pour essayer de comprendre qui ils étaient, comment ils étaient, les Néandertals. Et ce faisant, ils ont trouvé que des gènes exprimés dans le striatum, c'est-à-dire une partie du cerveau impliquée dans le mouvement, la gestion de la douleur, etc., ont plus de mutations spécifiques des Néandertaliens, Et ces gènes, donc, qui ont plus de mutations néandertaliennes, correspondent à des gènes chez l'homme moderne, chez nous tous, que sont dépourvus en matériel d'origine néandertalienne. Donc, à niveau de ces gènes, il y a des différences très importantes entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne. Et enfin, ils ont trouvé aussi chez la lignée néandertalienne des gènes sous sélection naturelle chez les néandertaliens, des gènes qui sont impliqués dans le développement neuronal, dans l'immunité et la capacité de cicatrisation, et aussi dans des fonctions mitochondriales. Cette étude a essayé de prendre un peu de recul, et au lieu de se concentrer sur c'est quoi qui distingue les Homo sapiens des Néandertaliens, ils ont voulu comprendre simplement le niveau de diversité des populations néandertaliennes, à niveau populationnel. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils se sont concentrés sur différents spécimens de Néandertal ayant vécu dans la dernière partie de l'histoire de Néandertal, c'est-à-dire il y a entre 39 000 ans et 47 000 ans. Ils ont comparé ces 5 spécimens de Néandertal avec d'autres Néandertal ayant vécu il y a plus longtemps. Tout d'abord, ils ont trouvé logiquement que les Néandertal plus récents sont plus liés entre eux génétiquement que par rapport aux autres Néandertal plus anciennes, y compris celui de Caucase qui ressemble plus ses contemporains en Europe de l'Ouest qu'à les spécimens de la même région plus anciens. Dans l'ensemble, il semblerait donc que dans la dernière partie de l'histoire de Néandertal, il y a eu un remplacement de la population de Néandertal. Et aussi, ils ont vu que les Néandertal qui ont contribué du matériel génétique à nous tous, c'est-à-dire Homo sapiens en Europe ou en Asie, se sont séparés de la lignée du Néandertal de l'Altaï il y a environ 150 000 ans. Et enfin, ils n'ont trouvé pas de signature d'échange génétique, de flux génique, qui irait de l'homme moderne vers l'homme de Néandertal. C'est-à-dire, l'homme de Néandertal a donné du matériel génétique aux humains modernes, mais pas à l'inverse. Mais j'y reviendrai sur ce point-là. Voici un des exemples les plus impactants de comment la génétique peut servir à identifier une nouvelle lignée d'humains disparus. Ça, ça a été une des grandes surprises de la paléogénétique, parce que grâce à des fouilles dans la grotte nommée Denisova, dont je vous ai dit qu'ils avaient déjà trouvé un néandertalien qui avait été séquencé, les chercheurs, en 2008, avaient trouvé simplement un morceau de phalange, un morceau de doigt, qui datait d'environ 50-80 000 ans. Donc, évidemment, sur la base de la morphologie d'un morceau de phalange, ils étaient incapables de dire s'il s'agissait d'un ancien homme moderne habitant dans la région, un néandertalien ou autre chose. Et c'est là qu'en séquençant d'abord l'ADN mitochondrial extrait de cette morceau de phalange et puis le génome, il vient la grande surprise. Il s'agit d'une lignée que vous pouvez voir ici qui est bien loin de tous les autres néandertaliens qui ont été séquencés. Et donc cette lignée a été baptisée comme la grotte dans laquelle a été découvert Denisova. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'homme de Denisova, qui serait donc un cousin, une lignée cousine des Néandertal, mais qui se trouve en Asie. Ils ont calculé la divergence entre le Denisova et les humains modernes, et on tombe encore une fois à il y a environ 800 000 ans. Donc plus ou moins la même divergence que celle entre les Néandertaliens et Homo sapiens. Mais l'autre surprise, c'est que quand on regarde, bon, ils ont séquencé le génome de cette nouvelle lignée, Denisova, et quand ils regardent si elle se métissait avec les populations humaines de son entourage, c'est-à-dire l'Asie de l'Est, ils ont trouvé qu'il n'y a pas de matériel archaïque denisovien chez les Européens. Jusqu'à là, c'est logique. Il y a extrêmement peu, voire pas, de matériel génétique d'origine denisovien en Asie de l'Est. Mais après, il se trouve qu'il y avait entre 3 et 5% de matériel denisovien chez les populations de la Mélanésie. Ce qui était pour la première fois un indice que l'aire de répartition de cette forme archaïque, les denisoviens, était bien plus large que juste la région de l'Altaï en Sibérie. Parce qu'on trouve que des populations à des milliers de kilomètres en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils ont du matériel archaïque d'origine denisovien. Aussi, ils ont, en étudiant la séquence denisovien, ils ont vu qu'ils portent des allèles qui, chez les humains actuels, sont associés à la peau foncée, aux cheveux bruns et aux yeux bruns. Donc, ils avaient déjà un aperçu en admettant que ces mutations, évidemment, ils ont la même fonction dans la lignée denisovienne, un aperçu de comment les denisoviens devraient être physiquement. Et enfin, ils ont vu aussi que cette lignée présente très peu de diversité génétique. Depuis ces dernières années, on a vu beaucoup progresser nos connaissances sur les denisoviens et leur contribution aux populations humaines modernes. Ici, vous pouvez voir deux cartes géographiques. Ici, vous voyez la quantité de matériel génétique chez les populations humaines modernes de la planète, de matériel génétique d'origine néandertalien, qui est en moyenne entre 2 et 3%. Vous pouvez voir qu'il y a un peu plus de matériel néandertalien en Asie qu'en Europe, environ 20% de plus, mais là, ça se joue entre 2 et 2,2%. Et pendant longtemps, cette plus grande proportion de matériel néandertalien chez les Asiatiques de l'Est a été attribuée à une nouvelle vague de métissage des Asiatiques de l'Est avec les Néandertaliens. Parce que l'hypothèse la plus admise, vu que tous les Eurasiens, en gros, tous les non-Africains, on a dans nos génomes environ 2% de matériel génétique néandertalien, l'hypothèse, c'était qu'à peine l'homme sort d'Afrique, quelque part au Moyen-Orient, très tôt, et avant qu'il y ait la divergence entre Européens et Asiatiques, il y a eu un métissage entre les premiers hommes quittant l'Afrique et les Néandertaliens. Et donc, c'est pour ça que pendant longtemps, on croyait qu'il y a eu un deuxième événement de métissage des Asiatiques de l'Est avec les Néandertaliens. Les données les plus récentes montrent que probablement ce n'est pas vrai, ça, et c'est simplement qu'en Europe, les Européens se sont ensuite métissés avec une autre population, des populations humaines modernes, que cette population était dépourvue de matériel archaïque. Et donc, ça a diminué, ça diluait un peu la présence du matériel archaïque chez les Européens. En plus, une étude très récente, il y a quelques mois, a montré qu'il y a une autre raison pour laquelle les Européens, ils ont moins de matériel néandertalien de ce qu'on s'attendrait. Et c'est parce que en Afrique, il y a eu des migrations provenant des Européens, ou en gros des Eurasiens de l'Ouest, des gens du Moyen-Orient. Il y a eu des migrations qui sont reparties en Afrique, ce qu'on appelle « back to Africa migrations ». Or, ces migrations ont amené à l'Afrique un peu de matériel génétique néandertal, parce que c'était le matériel qui était déjà en Eurasie. Or, la façon de définir la néandertalitude, donc la quantité de matériel génétique de Néandertal chez les non-Africains, est, on prend notre génome, on compare les morceaux de notre génome à la séquence néandertalienne, il faut que ça matche, il faut que ça soit la même, et la deuxième requis pour déclarer qu'une région dans nos génomes est d'origine néandertalienne, c'est qu'il faut qu'elle soit absente chez les Africains, parce qu'on admet qu'il n'y a pas de néandertal en Afrique. Or, s'il y a un peu de matériel néandertalien en Afrique qui est dû à ces migrations back to Africa, ça va sous-estimer la quantité de matériel archaïque néandertal en Europe. Enfin, vous pouvez voir ici la présence du matériel dénisovien chez les populations de la planète. On voit que c'est zéro presque partout, environ 0,5% en Asie de l'Est, et ici, au Pacifique, ça c'est hors échelle, comme vous pouvez voir ici, c'est entre 3 et 5%. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'études ensuite qui se sont focalisées sur qu'on sait tellement peu sur les dénisoviens, on n'a qu'un génome, ce qu'on s'est dit, c'est vu que les gens de la Mélanésie présentent entre 3, 4, 5% de leur génome, jusqu'à l'époque, c'était qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'origine dénisovienne, pourquoi on ne séquence pas beaucoup de populations actuelles, modernes, et avec ce 3-4% dénisovien que les gens d'origine mélanésienne arborent aujourd'hui, on les met ensemble et on comprend un peu plus qu'ils étaient les dénisoviens. C'est une façon de ressusciter un homme disparu, les dénisoviens, grâce à l'héritage qu'ils ont légué, qu'ils ont laissé aux populations actuelles. Donc cette étude de 2016, ils ont, comme vous pouvez voir, étudié beaucoup de populations du Pacifique, notamment de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Nouvelle-Bretagne et de certaines îles de Bismarck. Ils ont vu, comme vous pouvez voir ici, que les populations océaniennes ressemblent beaucoup plus au Denisova que vous avez ici que à l'homme de Néandertal et qu'en revanche, les populations de l'Eurasie se rapprochent à l'homme de Néandertal, les Africains étant loin aussi bien des Denisoviens que des Néandertal. Et ici, vous pouvez voir différentes populations de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie, Bougainville, et ici, différentes populations en Mélanésie, tous ils ont entre 2% au minimum jusqu'à 3,4% de matériel dénisovien dans leur génome. Mais l'étude de ce matériel archaïque dans nos génomes nous permet également de comprendre quand et comment ce métissage est arrivé. Ici, vous pouvez voir, on étudie ici dans quelle mesure les génomes actuels des Britanniques, par exemple, ressemblent à la séquence du Néandertal. Et vous pouvez voir ici qu'il y a plein de séquences chez les Britanniques qui matchent à 80% avec la séquence de l'homme de Néandertal. Quelle que soit la population humaine, britannique, espagnol, italien, asiatique de l'Est, on voit sur le X ici, c'est juste le match avec la séquence de Néandertal, qu'il y a, qu'on dirait, que toutes les populations de l'Eurasie se sont métissées avec un type de population d'hommes de Néandertal particulière et unique. En revanche, sur les Y, on a le match avec la séquence des Denisoviens. Évidemment, il n'y a rien en Europe, mais vous pouvez voir ici, dès qu'on va en Asie, les Chinois Han, les Japonais et les Vietnamiens, qu'on ne trouve pas que leur génome matche avec un type de Denisoviens. Il y a un type qui matcherait à environ 80%, il y en a autre qui matcherait, c'est-à-dire qui ressemblerait à la séquence des Denisoviens, à environ 60%. Alors, ça c'est un indice que les Asiatiques se sont probablement métissés deux fois avec deux formes de Denisoviens différentes. Une que ça ressemble beaucoup au seul génome qui a été séquencé, celui de Denisova, de l'Altaï, et une autre forme de Denisovien qui est plus distante, plus différenciée du génome de l'Altaï, parce que n'oubliez pas que toutes ces conclusions, on les fait sur la base d'un seul génome. Mais les Denisoviens devraient être aussi différenciés entre eux. C'est ce qu'une étude a voulu creuser il y a 2 ans, et ils ont regardé dans les populations humaines qui présentaient des segments Denisoviens dans leur génome la longueur de ces fragments Denisoviens. Parce que je vous rappelle que dépendant dans nos génomes à nous de la longueur de ces fragments d'ADN archaïques, on peut savoir plus ou moins, en génétique de population, le moment où ce segment archaïque est rentré dans notre génome, grâce à la recombinaison. Je vous ai expliqué la semaine dernière ce qui est la recombinaison. Donc, si ce segment est rentré dans nos génomes il y a très 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 longtemps, la recombinaison l'aura cassé. Donc la longueur de ce segment sera très petite. En revanche, si ce segment est rentré dans nos génomes il n'y a pas longtemps, parce que l'événement de métissage est récent, nous porterons des fragments longs, parce que la recombinaison n'a pas eu le temps de raccourcir ce segment. Donc ce qu'ils ont vu ici, c'est que tout d'abord, donc, en étudiant tous ces morceaux d'origine Denisovien dans les populations d'Asie du Sud-Est et du Pacifique, ils ont vu qu'il y a eu 3 types de populations Denisoviens différentes. On commençait à diverger ces 3 grandes populations d'individus Denisoviens, ou en anglais souvent on dit Denisovan-like, parce qu'on les appelle Denisova parce que c'est la seule façon qu'on a de les appeler. Mais peut-être c'était même d'autres groupes, voire d'autres lignées, parce que ces 3 populations de Denisova, de Denisoviens, se sont séparées il y a presque 400 000 ans. Ce qui est plus ou moins le temps que les Denisoviens se sont séparés des Néandertaliens. Donc vous comprendrez bien que c'est par convention qu'on les appelle des Denisoviens. Donc ce qu'ils ont vu, c'est que les Papous se seraient métissés avec 2 populations différentes de Denisoviens. Il y a une il y a environ 30 000 ans et l'autre il y a environ entre 30 et 50 000 ans se sont métissés. Avec 2 populations de Denisoviens qui ont divergé il y a très longtemps du Denisova de l'Altaï. En revanche, les Asiatiques de l'Est se seraient métissés avec une population qui ressemble beaucoup au Denisova de l'Altaï, de la Sibérie, il y a beaucoup plus récemment. Et voilà une de nos dernières études, que j'espère qu'il va sortir dans quelques semaines dans Nature, qu'on a fait la même chose. On a séquencé environ 300 génomes, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bismarck, Mélanésie, donc les îles Vanuatu, Santa Cruz, Solomon et 3 populations de Polynésiens. On a pris tous les morceaux Denisoviens présents dans tous ces génomes et ce qu'on a pu voir, c'est que tandis que la partie néandertalienne dans ce génome serait arrivée en une seule fois chez l'ancêtre de tous les Eurasiens, qu'on a daté grâce encore une fois à la longueur des haplotypes, il y a environ 60 000 ans, il y aurait eu cet événement de métissage, qui d'ailleurs coïncide plus ou moins avec le temps auquel les hommes ont quitté l'Afrique. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu au moins 4 événements indépendants de métissage avec l'homme de Denisova. Les plus anciens, donc on en trouve 2 chez les papous, qui date entre il y a 25 000 ans et 60 000 ans. On en trouve un spécifique d'une population des Philippines, les Acta, parfois connus sous le nom de Negritos. C'est des populations de petite taille, de hauteur, habitants et de peau foncée, habitants dans les Philippines. Et enfin, on a vu que le dernier événement de métissage a touché les Asiatiques de l'Est il y a que 21 000 ans, sur la base de l'horloge moléculaire, de la recombinaison et de la longueur des haplotypes, ce qui suggère que l'homme de Denisova aurait pu vivre jusqu'à il y a que 21 000 ans. On n'en sait rien, parce que pour l'instant, on a trouvé juste deux spécimens d'un point de vue anthropologique de Denisova, un à l'Altaï, la phalange qui a été séquencé, et après un morceau de mandibule dans le Tibet, pour lesquels ça n'était pas possible d'extraire de l'ADN, mais Jean-Jacques Hublin, du Collège de France, a réussi à caractériser le pool protéique grâce à la spectrométrie de masse de cette mandibule et pouvoir l'attribuer à l'homme de Denisova. Une chose que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est une étude récente qui montre qu'il y a eu aussi du métissage entre les Néandertaliens et les Denisoviens. Dans cette étude, ils ont trouvé un morceau d'os dans la grotte toujours de Denisova, qu'ils ont appelé Denisova 11, mais ils ne savaient pas à quelle lignée elle appartenait. Donc, ils ont pu séquencer une partie, dans ce cas-là, de son génome, et ils l'ont comparé au Néandertalien, au génome de Denisova et à différents hommes modernes qui habitaient aussi, mais à l'époque. Et donc, ils ont vu qu'il s'agissait déjà d'une fillette d'environ 13 ans. Et en comparant son génome, je vous disais, à celui des Néandertaliens et des Denisoviens, ils ont observé une chose surprenante. La moitié de son génome était d'origine néandertalien et l'autre moitié, environ, d'origine denisovien. En gros, cette fillette de 13 ans était un F1, un hybride, qu'avait son père était néandertalien, denisovien, et sa mère était néandertalienne. Et ce qui est intéressant, c'est que la mère néandertalienne de cette fillette était plus proche génétiquement au néandertalien tardif de l'Europe qu'au néandertalien trouvé dans la même grotte de l'Altaï, mais plus ancien. Ce qui montre que le métissage entre différentes formes humaines a été très fréquent pendant l'histoire de l'homme. Cette étude, c'est une étude très intéressante aussi, publiée il y a quelques années, parce qu'ils ont voulu séquencer les hommes archaïques les plus anciens qui existaient. Je vous disais que le mammouth de 1 million d'années, c'était une prouesse, c'était quelque chose que ça poussait au maximum les limites de l'ADN ancien, et qu'avant, juste le séquençage du cheval d'il y a 700 000 ans, et je faisais allusion à cette étude, des hommes archaïques qui datent de cette région au nord de l'Espagne, qui s'appelle Cima de los Huesos, et tous ces restes d'hominines ont été datés d'il y a environ 430 000 ans. Donc, des études précédentes, à niveau morphologie, montraient que ces individus partageaient des caractéristiques avec les Néandertaliens. Mais à l'échelle de l'ADN mitochondrial, ils étaient plus proches des Denisoviens que des Néandertaliens. Donc, ils ont séquencé des fragments de ces génomes pour essayer de comprendre qui ils étaient, ces hommes archaïques de la région de Cima de los Huesos, vieille de 400 000 ans. Déjà, ils ont trouvé qu'en raison de l'orage, les fragments d'ADN étaient extrêmement courts, d'environ 45 paires de bases, juste. Et en comparant des mutations qui sont informatives dans les génomes avec les Néandertaliens et les Denisoviens, ils ont vu que la plupart de ces individus avaient des mutations qui les rapprochaient aux Néandertaliens. Donc il s'agit probablement de Néandertaliens très anciens, d'il y a plus de 400 000 ans. Mais quand on compare, comme vous le voyez ici, ça sont deux fragments de la cima de los huesos, ici, et ça sont différents génomes néandertaliens plus récents qu'on connaît déjà. Ce qu'ils ont vu, c'est que, tandis que la plupart des néandertaliens ressemblent beaucoup aux néandertaliens de l'Altaï, ces néandertaliens anciens d'il y a 400 000 ans ressemblent beaucoup moins, partagent beaucoup moins de mutations en commun avec le néandertal de l'Altaï, ce qui montre que ces néandertaliens d'il y a 400 000 ans, ils ont dû appartenir à une lignée ancienne et précoce des néandertaliens. Enfin, avant, je vous ai dit que tandis que les néandertaliens en donnaient beaucoup de matériel génétique, beaucoup, 2-3%, aux hommes et femmes modernes, il n'y a pas eu d'échange dans l'autre sens. C'est-à-dire, les hommes modernes ont très peu donné, on trouve très peu de matériel homo sapiens chez les génomes des néandertaliens. Mais une étude récente a complètement bouleversé cette vision quand ils ont séquencé le chromosome Y. Or, on connaissait très peu du chromosome Y des hommes archaïques parce que la plupart des néandertaliens et le Denisova séquencé sont tous des femelles. Donc, on ne connaissait vraiment rien. Donc, ici, ils ont séquencé le chromosome Y de deux Denisoviens et de plusieurs néandertaliens à haute résolution. La première surprise qu'ils ont observée, c'est que, au lieu que le chromosome Y des néandertaliens et des Denisoviens soit plus proche entre eux, ils ont vu que le chromosome Y des néandertaliens est plus proche de celui des hommes modernes. Première chose. Deuxième chose qu'ils ont vu ici, c'est que quand on compare les Denisoviens et les néandertaliens à des humains modernes, tandis que la divergence entre les Denisoviens et les humains modernes correspond à niveau du chromosome Y, plus ou moins à la date de divergence entre Homo sapiens et les Denisoviens, quand on fait la même chose par rapport aux Néandertaliens, en bleu ici, on voit que la date de divergence des chromosomes Y des Néandertals et des hommes modernes est beaucoup plus jeune que la date de divergence des deux lignées, que c'est environ 800 000 ans. Donc, ils en ont déduit, comme vous pouvez voir ici, que le chromosome Y de Néandertal a été remplacé par une lignée proche à la lignée Homo sapiens il y a environ entre 100 000 ans et 300 000 ans. Ainsi, dans les Néandertaliens de la dernière période, il y aurait eu un remplacement de leur chromosome Y par une lignée proche des humains d'aujourd'hui, ce qui montre que la lignée qui a donné lieu à Homo sapiens a aussi contribué à la variabilité des Néandertaliens. La cause de la perte du chromosome Y original, entre guillemets, des Néandertals, on ne la connaît pas, mais les auteurs ont émis l'hypothèse qu'au vu de la petite taille de la population néandertalienne, où la sélection naturelle est beaucoup moins efficace, le chromosome Y étant impliqué dans des phénotypes par définition extrêmement sélectionnés dans la reproduction, il y a pu avoir un remplacement d'un chromosome Y provenant d'une autre lignée qui portait des mutations qui rendaient les néandertaliens plus fit, ce qu'on appelle plus adapté et plus capable de se reproduire. Jusqu'à maintenant, on a vu la mesure dans laquelle nous portons, quand je dis nous, je dis Homo sapiens d'origine non africaine, des morceaux archaïques de Néandertal ou de Denisova. Mais une question majeure dans ces dernières années, c'est où sont localisées ces régions-là dans notre génome. Est-ce que les régions qui présentent de notre génome de matériel génétique néandertal sont distribuées dans notre génome d'une façon homogène, un peu partout, dont ces 2,2% est distribué un peu partout, ou il y a des régions très riches en néandertal et des régions très pauvres. De même pour Denisova. Donc c'est ce qu'ils ont fait les auteurs ici, ils ont cartographié en étudiant 257 génomes de populations modernes d'aujourd'hui, de 120 populations d'aujourd'hui d'ailleurs, ils ont cartographié tout au long du génome quelles sont les parties qui sont riches en matériel génétique néandertal, riches en matériel génétique denisovien et aussi pauvres, ce qu'on appelle des déserts archaïques, des zones, des régions de notre génome qui sont dépourvues en matériel néandertal ou denisovien. Et ce faisant, ils ont trouvé 18 déserts néandertaliens, ce sont 18 régions de notre génome, qui ne présentent jamais du matériel néandertalien. Et 63, ça, ils l'ont trouvé dans toutes les populations non africaines. Et en revanche, chez les populations de la région Asie-Pacifique, ils ont trouvé 63 déserts denisoviens. Mais avant de comprendre les fonctions de ces matériels archaïques, de ce matériel archaïque dans nos génomes, il y a différents cas de figure. Donc, partons en arrière, ça c'est le passé, et ça c'est le présent. Ça sont des chromosomes. Qu'est-ce qui peut arriver dans nos chromosomes à nous? Ça c'est Homo sapiens. Il peut y avoir l'introduction du matériel archaïque d'origine néandertalienne, mais dans ces cas-là, ces mutations néandertaliennes sont délétères pour la survie de notre espèce. Donc ces mutations seront éliminées de la population. Donc voici le cas d'un désert néandertalien, un gène impliqué probablement dans une fonction d'Homo sapiens qui ne tolère pas que ça change. En revanche, on peut avoir des régions, des mutations provenant de Néandertal ou de Denisova, je veux dire Néandertal pour simplifier ici, qui sont neutres, donc qui sont introduits dans une partie de notre génome, qui n'ont aucune fonction ou simplement ils sont tolérés, et donc ces mutations restent dans la population et leur fréquence va fluctuer par simple dérive génétique. Donc, mais en revanche, il peut avoir des mutations néandertaliennes qu'une fois intégrées dans le génome humain, nous ont aidé à mieux survivre. Et donc, ces mutations vont augmenter en fréquence. Donc là, on parle d'introgression adaptative. Ces deux termes sont importants, parce que je vais les utiliser beaucoup maintenant. Une région qu'il y a du matériel néandertalien, on appelle de l'introgression archaïque. Mais l'introgression archaïque, quand elle devient avantageuse pour notre espèce, elle s'appelle introgression adaptative. Or, une question majeure des dernières années, c'est tout ce matériel archaïque qu'on a dans nos génomes, que ce soit d'origine néandertalien ou denisovien, il est simplement là par hasard parce qu'il a été toléré, ou dans quelle mesure une partie de celui-là nous a aidés à mieux s'adapter à l'environnement. Donc, ce qu'ils ont vu, tout d'abord, c'est que la plupart du matériel archaïque qui est rentré dans nos génomes a été contre-sélectionné. Et ça, ça a été attribué au fait que la population de Néandertaliens était une population plus faible en termes d'effectifs efficaces que les humains, où la sélection naturelle était moins efficace. Donc, l'hypothèse a été émise que les Néandertaliens étaient porteurs de plus de mutations délétères. Et donc, quand ils étaient introduits chez le génome humain, ils étaient tout de suite purgés. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les régions de notre génome, des génomes d'Homo sapiens, qui sont plus dépourvues en origine archaïque, sont les gènes localisés sur le chromosome X, et en particulier ceux qui sont exprimés dans les testicules. Ce qui suggère qu'il y avait une certaine stérilité chez les hybrides. Donc, on a vu que ce soit chez les Européens ou les Asiatiques, il y a des régions, comme vous pouvez voir ici, qui sont riches en Néandertal, ou des régions qui sont complètement dépourvues. Et une question que se sont posées ici, c'est est-ce que, si on regarde les différentes parties du génome, est-ce que les déserts néandertals, archaïques, sont distribués un peu au hasard ou sont présents dans des régions spécifiques du génome? Et ce qu'ils ont vu, c'est que les parties de notre génome qui sont plus dépourvues en matériel archaïque sont les promoteurs et les régions codantes conservées. En revanche, les régions qui tolèrent plus d'introgression archaïque sont les énoncères. C'est-à-dire, les énoncères, comme vous savez, sont des éléments régulateurs distales de l'expression génique. Maintenant, quid des régions archaïques qui ont survécu dans nos génomes? Mais pour ça, avant de comprendre pourquoi ils ont survécu et la fonction qu'ils peuvent avoir dans nos génomes, il faut bien les savoir définir. Parce que je vous rappelle que la façon dont on déclare qu'une région est d'origine néandertale, c'est que dans nos génomes, cette partie du génome ressemble à la séquence de Néandertal et elle est absente chez les Africains. Or, on pourrait se tromper. Parce que cette région match Néandertal ressemble à la séquence de Néandertal et soit absente chez les Africains peut arriver s'il y a une ancienne structure des populations. C'est-à-dire, dans tous nos ancêtres, la partie rouge, on va dire, a été distribuée, il y avait de la diversité génétique rouge et de la diversité génétique bleue. Et par hasard, il n'y a que les Européens qui ont hérité de nos ancêtres la partie rouge, et cette partie rouge s'est perdue chez les Africains. Et là, il ne faut pas invoquer du métissage avec les Néandertaliens. Or, pour distinguer entre une ancienne structure des populations ou un vrai métissage, c'est-à-dire l'introgression archaïque, c'est-à-dire que les segments rouges ont été vraiment donnés aux Européens grâce au métissage, à nouveau, ce qu'il faut faire, c'est juste regarder la longueur de ces régions. S'ils sont longues, ça veut dire que c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc on peut savoir quelle est la longueur qui est compatible avec un événement de métissage il y a entre 40, 50, 60 000 ans. Et le distinguer quand ces régions-là sont extrêmement courtes, ça veut dire que ça fait très longtemps qu'elles ont été intégrées au génome, ça veut dire qu'elles ne sont pas compatibles avec le temps au moment auquel il y a eu le métissage entre Néandertal et Homo sapiens. Alors, il y a eu... on peut avoir des régions du génome qui présentent des signatures d'introgression adaptative. Dans le cas de Néandertal, je ne veux pas vous faire la liste de tous les gènes et fonctions qui nous ont été donnés par Néandertal ou par les Denisoviens et qui ont été bénéfiques, mais voici quelques exemples. Par exemple, dans le cas de Néandertal, vous avez ce gène-là, BNC2. Il est exprimé chez les kératinocytes. Il est associé à la pigmentation de la peau chez les Européens. L'haplotype néandertalien, dans ces cas-là, est présent dans 70% des Européens actuels. Il est absent en Asie. Un exemple en Asie, ici, le gène POU2F3. Ce gène, il est également impliqué dans l'épiderme, et il est impliqué aussi dans la prolifération des kératinocytes. En l'occurrence, l'haplotype néandertalien est présent dans 60% des Asiatiques de l'Est actuels et présent à très faible fréquence en Europe. Par rapport à Denisova, par exemple, laissez-moi mentionner ce gène-là, TNF-AIP3. TNF-AIP3, c'est probablement l'exemple le plus emblématique aujourd'hui de ce que Denisova a donné aux gens du Pacifique, et c'est que grâce à ce métissage, les gens du Pacifique ont pu mieux s'adapter à l'environnement. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il fait ? TNF-AIP3, c'est un enzyme de l'immunité qui est impliqué dans l'atténuation de la réponse inflammatoire, c'est-à-dire le fameux orage de cytokines dont vous avez beaucoup entendu parler, surtout dernièrement, grâce ou à cause de l'épidémie de Covid. Donc, ça c'est une autre étude, beaucoup plus récente, où ils ont étudié les signatures de sélection de l'héritage denisovien chez les Papous et chez les populations de l'Asie du Sud-Est. Ils retrouvent que TNF-AIP3 est partagé par ces deux populations, ce qui soutient le fait que ces populations du Sud-Est asiatique et du Pacifique, grâce au métissage avec Denisova, ils ont acquis des mutations, pas seulement reliées à l'immunité, dont je vous parlerai beaucoup en détail vendredi prochain, que sera exclusivement dédié à la relation entre l'homme et les pathogènes, mais aussi ils ont acquis d'autres gènes qui sont impliqués. Donc, grâce à ce métissage avec Denisova, ils ont acquis d'autres gènes impliqués dans l'adipogénèse, c'est-à-dire la fabrication de la graisse, du tissu adipeux chez l'homme. Dans cette étude, il a voulu poser une question beaucoup plus générale, et c'est quels sont les grands gènes et les grandes fonctions que l'homme moderne, quand il est sorti d'Afrique, que ce soit en Asie, en Europe, en Mélanésie ou au sud de l'Asie, qu'est-ce que les populations modernes de ces endroits-là ont plus acquis comme gènes archaïques? Donc là, on trouve encore des gènes impliqués dans la pigmentation de la peau, en Asie de l'Est, par exemple, comme OCA2, en Mélanésie, on retrouve TNF-AIP3, donc impliqué dans l'immunité. Aussi, les gènes antivirales OAS1, 2, 3, je vais en parler vendredi prochain. Et aussi, le gène en Europe BCN2, associé à la pigmentation de la peau. Donc, deux exemples ici, plus en particulier. L'exemple de la région OCA2, que ce gène est impliqué dans la pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux en Europe. Et ce gène, la variabilité de ce gène a été héritée par toutes les populations, sauf les Africains, de Néandertal. Ici, un exemple de Denisova, donc toujours le gène TNF-AIP3, impliqué dans la régulation de la réponse inflammatoire, vous pouvez voir que la partie denisovien de ce gène, on la trouve en progressée uniquement chez les individus d'origine mélanésienne. Probablement un des exemples le plus emblématique de comment le métissage avec un homme archaïque a aidé une population donnée à s'adapter à l'environnement, c'est l'adaptation à l'altitude. Je vous ai dit vendredi dernier que différentes populations au monde, au Tibet, en Éthiopie, dans l'altiplano en Amérique du Sud, vivent dans des conditions extrêmes d'hypoxie. Ici, au Tibet, il y a, à plus de 3000 mètres d'altitude, il y a 40% de moins d'oxygène. Donc, on avait vu qu'un gène en particulier, EPAS1, a été associé, il est présent des mutations dans EPAS1 dans 80% des Tibétains et très peu fréquent, ici, chez les Asiatiques. Et cette étude avait montré que la signature de sélection naturelle était spécifique des Tibétains et non pas des Chinois Han. C'est-à-dire, ces mutations ont augmenté en fréquence au Tibet parce qu'elles permettent de mieux s'habituer à la vie en hypoxie. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'une étude, quelques années après, a montré que c'est précisément ce gène-là, EPAS1, qui est le gène le plus différencié entre deux populations, pourtant presque égales d'un point de vue génomique, les Tibétains et les Chinois Han. Mais ils ont identifié dans cette étude-là un haplotype de 32 kilobases qui est présent uniquement ici en noir chez les Tibétains, absent chez les Chinois Han. Et cet haplotype, quand on fait un réseau des haplotypes de la région EPAS1, on peut voir les Tibétains, excusez-moi, je ne peux pas voir sans mes lunettes, Tibétains ici, excusez-moi, et ici vous voyez le génome de Denisova. Donc vous voyez que par rapport à cet haplotype, les Tibétains ont hérité cet haplotype de l'homme de Denisova. Or, cet haplotype d'origine denisovien est présent et a été trouvé nulle part ailleurs, sauf dans deux individus d'origine Han, chinois Han. Ce qui a amené les auteurs à proposer que le métissage avec les denisoviens serait arrivé avant la séparation de ces deux populations. Mais ça, c'est un cas emblématique de comment on peut hériter une mutation denisovienne, genre dans le cas des Chinois Han, mais cette mutation, ça ne nous sert pas à grand-chose parce qu'on n'habite pas en hypoxie. Tandis que quand elle est héritée par les Tibétains, c'est une mutation augmente en fréquence. Dans ce cas-là, c'est de la progression adaptative parce qu'elle permet à ces populations de se adapter biologiquement à l'hypoxie. Mais pour l'instant, toutes les études que reliaient Néandertal, Denisova, à la variabilité génétique des populations actuelles, était fait à niveau des gènes, simplement. Donc cette étude a eu l'intuition et quelque part la lueur d'esprit de dire « Et pourquoi on ne corrèle pas l'origine des mutations archaïques avec des vrais phénotypes ?» Être grand, être petit, pas des gènes, et qu'après on regarde la fonction des gènes et on fait des conclusions sur la base de la fonction du gène, sur la fonction qu'aurait pu cibler la progression archaïque. Ce qu'ils ont fait ici, c'est regarder le chevauchement entre régions génétiques qui sont d'origine archaïque chez les humains modernes et on regardait si ces régions sont associées à des phénotypes directement. Ça veut dire quoi? Ils ont regardé la corrélation entre mutations d'origine humaine et mutations d'origine néandertalienne, comme vous pouvez voir ici. Et ils ont regardé si l'ARN qui porte des mutations néandertaliennes s'exprime plus ou moins, d'abord, que l'ARN qui porte des mutations humaines modernes. C'est la première chose qu'on regardait, donc un phénotype dans ce cas-là moléculaire, pas un vrai phénotype ultime, comme on appelle. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'en général, dans les régions du cerveau et les testicules, les ARN avec une mutation néandertalienne ont la tendance à être moins exprimés que les ARN d'origine humaine moderne. Un gène qui illustre très bien cette tendance, c'est ce gène-là, NTRK2. Ce gène est impliqué dans la régulation et la survie des neurones et la formation des synapses. Or, des mutations dans ce gène, aussi, ils ont été impliqués dans des phénotypes psychiatriques et neurologiques tels que la dépression, l'autisme, le développement du langage, entre autres. Et ce qui est intéressant à remarquer ici, c'est que les haplotypes d'origine néandertalien sont associés à une moindre expression de ce gène, chez nous tous, dans le cervelet et les ganglions de base. Mais on peut aller au-delà de ces phénotypes et regarder dans quelle mesure les régions d'origine archaïque corrèlent avec des vrais phénotypes reliés à notre santé ou à notre apparence physique. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Dans cette étude, ils ont voulu comprendre la façon dont les mutations d'origine néandertalienne sont associées à la variabilité des phénotypes humains, en analysant une biobanque qui s'appelle UK Biobank, c'est-à-dire cette biobanque d'origine britannique, est composée de 1,5 million de personnes, dont environ la moitié ont été déjà caractérisés d'un point de vue génétique, mis à part la quantité de phénotypes pour lesquels ils ont été bien définis. Donc, ce qu'ils ont observé est que les variants néandertaliens peuvent affecter surtout, ils ont trouvé 15 phénotypes pour lesquels il y a une corrélation avec l'introgression néandertalienne sur 136 phénotypes étudiés sur 100 000 individus. Et ils ont trouvé que les phénotypes principalement affectés par l'introgression néandertalienne sont impliqués dans différents phénotypes comme la taille, différentes pigmentations de la peau, différents types de sommeil, on va voir ça, être quelqu'un de jour ou être quelqu'un de soir, du soir, et aussi l'addiction au tabac. Donc, ils ont pu calculer dans la population britannique différents le pourcentage d'haplotypes néandertaliens qui sont associés à différentes couleurs de pigmentation de la peau, de la plus claire à la plus foncée. La probabilité de prendre des coups de soleil, dans ce cas-là, l'haplotype néandertalien est présent à 70%. Et aussi, environ 10% d'haplotypes néandertaliens présents chez les Britanniques sont associés à différentes couleurs de cheveux, sauf le fait d'être roux. Mais qu'est-ce que ça montre, tout ça? Ça montre que les Néandertaliens ont donné plusieurs mutations aux Européens impliquées dans plusieurs phénotypes déjà, qui va de la couleur claire des cheveux à la couleur foncée. Et qu'est-ce que ça nous dit déjà? Ça nous dit que les Néandertaliens, eux, étaient déjà très variables à niveau pigmentation de la peau et à niveau, par exemple, la couleur des cheveux. Aussi, ils ont trouvé une variante d'origine néandertalienne qui est associée au rythme circadien et surtout en noir, vous pouvez la voir ici, leur fréquence au fait d'être aujourd'hui une personne qu'on appelle du soir. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que beaucoup de ces phénotypes, au fond, sont reliés entre eux. Au fond, la pigmentation de la peau, les rythmes de sommeil et l'humeur sont tous liés à l'exposition au soleil. Donc, vu que les Néandertaliens vivaient en Europe depuis 300 000 ans, ils ont développé ces différents phénotypes qu'ils ont transmis aux humains modernes une fois les humains modernes sont arrivés d'Afrique. Et donc, les Néandertaliens ont contribué à la variabilité phénotypique des humains d'aujourd'hui. Sans que ça veuille dire que ces phénotypes, cette diversité phénotypique que les Néandertaliens nous ont transmis a été nécessairement bénéfique. Là, c'est une observation en se métissant, ces phénotypes ont été tolérés, et donc notre diversité phénotypique ne résulte que de notre propre adaptation à l'environnement, mais aussi on l'a hérité en partie par le métissage avec l'homme de Néandertal. Dans cette étude, ils sont allés encore plus au-delà, et là, ils se sont intéressés à la relation entre métissage néandertal et santé des phénotypes associés à des maladies. Et ils ont étudié la façon dont 135 000 variants génétiques d'origine néandertalienne affectent 1000 phénotypes différents provenant des questionnaires de santé d'environ 28 000 individus d'origine européenne. Certains phénotypes, ils ont été identifiés et répliqués dans leurs analyses, c'est-à-dire des phénotypes chez les humains modernes que sont associés à des mutations d'origine néandertalienne dans nos génomes, comme par exemple la kératose solaire, les troubles de l'humeur, la dépression ou l'obésité. Ils ont également vu qu'à peu près le même nombre de variants néandertaliens augmente ou diminue le risque de développer ces maladies. Encore une fois, montrant quoi ? Que les néandertaliens étaient polymorphes aussi par rapport à ces maladies. Il y avait qu'avait les mutations à risque, il y avait qu'avait les mutations de protection. Ils ont également identifié des variants néandertaliens associés à la réponse inflammatoire et à la coagulation du sang. Mais sur ce sujet, j'y reviendrai en profondeur vendredi prochain. Et enfin, ils ont voulu tester, parce que jusqu'au moment et l'étude précédente, je suis en train juste de vous parler des phénotypes qu'on a hérités de Néandertal, mais qu'ils n'ont pas été nécessairement avantageux. On les a hérités, c'est tout. Mais là, ils ont voulu tester s'il y a des phénotypes associés à des mutations néandertaliennes que sont plus présents dans notre génome que le hasard voudrait. Ce qui montre que dans ces cas-là, pas seulement on les a hérités, mais ils nous ont conféré un avantage évolutif. Ils ont montré que ça affectait particulièrement des phénotypes neurologiques. En revanche, ils ont vu que des phénotypes reliés à la fonction digestive sont ceux qui montrent le moins d'associations avec des mutations d'origine néandertale. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va parler de la relation entre l'homme et les microbes. Mais aussi, on va parler, dans les deux vendredis qui nous restent, de toute une partie que je n'ai pas eu le temps d'expliquer et je tiens à l'expliquer calmement, mais j'ai dépassé déjà mon temps, que c'est comment l'ADN ancien peut nous aider aussi à mieux comprendre l'histoire des populations modernes d'aujourd'hui. Je vous remercie.